Voilà, et bien aujourd'hui, notre invité du jeudi va être le père François Lefort, que tout le monde connaît maintenant, puisqu'il va nous dire depuis combien de temps il est là. Moi, je ne sais pas, mais ça fait un petit peu. Donc, ça sera notre invité du jeudi. On va le retrouver dans quelques instants.
Porque tengo un sentimiento que ya en el hueso me estoy quedando.
Ave María, Lola, conmigo vas a acabar.
Ay, mira, mira, Lola, Lola, Lolita, conmigo, Lola, vas a acabar.
Ave María, Lola, conmigo vas a acabar.
Cuando te miro yo veo que tú la espalda me das. Cuando te miro yo veo que tú la espalda me das. Si lo haces porque soy feo, la culpa de ello tiene papá.
Voilà, donc on va retrouver tout de suite François. Donc François, bonjour.
Bonjour.
Alors 11 ans, ça y est, 11 ans que François atterrit.
Oui, je revenais de Saint-Jacques-de-Compostelle et je ne savais pas où aller. Je n'avais jamais entendu parler de Craponne-sur-Arzon de ma vie. Et l'évêque m'a dit, est-ce que ça vous plairait de venir? J'ai dit oui. Et puis... Et maintenant, je vous préviens, je ne partirai plus. Hein. On va m'enterrer à Saint-Pal, moi. C'est fini. Hein. Je ne déménage plus. J'ai déménagé 32 fois dans ma vie, ça suffit.
C'est pas mal quand même.
Oui,
oui, alors, c'est vrai que tu as beaucoup voyagé. On va en parler, ça. Donc, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, on peut peut-être revenir un peu sur ton parcours, parce que toi, tu as un parcours assez exceptionnel. Tu me l'avais expliqué. On peut, quand tu nous racontes le début de ton histoire... On ne peut pas comprendre comment tu as fini prêtre, parce que tu m'avais dit que tu étais dans le cabinet de Jospin.
Jean-Génard Dufoy. Non, mais même là, j'y étais, j'étais déjà prêtre.
Ah, tu étais déjà prêtre,
voilà.
D'accord, d'accord.
Et alors, c'est-à-dire qu'on m'avait proposé de détruire les bidonvilles et les cités de transit de France. Et je suis allé voir mon évêque, le cardinal Duval, à Alger. Et je lui ai dit, voilà, on me propose d'être dans un cabinet ministériel pour détruire les cités de transit et les bidonvilles. Il m'a dit, tu sais, on a un nouveau pape, il s'appelle Jean-Paul II. Il n'aime pas trop que les prêtres fassent de la politique. Bon, j'y avais pas, bah, tant pis, je ne le ferai pas, moi j'obéis. Hein. Et puis, à la porte, il m'a dit, qu'est-ce que tu vois de plus évangélique à faire que de faire ça? Je dis, je ne vois pas. Il me dit, vas-y, je me débrouille avec le pape. Et assez... En tant que prêtre, que j'étais prêtre, et de temps en temps, d'ailleurs, Mitterrand me disait, faudrait que tu fasses un miracle, là, c'est le moment. et c'est en tant que prêtre que... donc, j'ai jamais caché. Mais c'était quelque chose d'utile, puisqu'il fallait reloger des gens qui étaient très mal logés, donc c'était quelque chose que je ne regrette pas du tout d'avoir fait. Ouais.
Okay.
Et pour dire que je faisais pas de politique, après, j'étais dans un cabinet de droite.
Ah, d'accord.
Avec Xavier Emmanuelli. Donc, c'est pas en tant que... Je ne fais pas de politique,
non, non.
Mais je suis un technicien pour des domaines
consultant.
Où je m'y connais. Voilà. Voilà.
Et alors, mais comment on arrive à la médecine dans tout ça?
Alors, je voulais faire médecine quand j'étais gamin, mais mon père disait « t'es trop bête ». Et alors, comme j'ai connu l'abbé Pierre, enfin, ça a été très long comme histoire, finalement, j'ai eu envie de me faire prêtre. Je sens vraiment que j'ai été appelé par Dieu pour le faire. Alors, si les gens ne sont pas contents, il faut qu'ils s'adressent à Dieu. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Mais je n'ai jamais regretté. Ça fait 45 ans que je suis prêtre, je n'ai jamais regretté. Et étant prêtre, j'ai été directeur d'école à Alger. Et mon école a été arabisée. Et moi, je parle arabe, mais je n'ai que le certificat d'études en arabe. Et donc, je ne pouvais plus être directeur d'école. Et comme j'avais toujours eu envie de faire médecine, le cardinal Duval m'a dit, j'aimerais qu'il y ait un prêtre étudiant. Ben, j'ai dit, je veux bien, moi, et je vais faire médecine. Et c'est comme ça que je suis devenu médecin, étant prêtre déjà. Et ça, c'est mon métier, parce que prêtre, ce n'est pas un métier. Tandis que
c'est une vocation.
C'est une vocation, tandis que c'est un état. Tandis que mon métier, c'est médecin. J'aime beaucoup ce métier. Alors, je ne te conseille pas d'être soigné par moi. Parce que ma spécialité, c'est le choléra, les tremblements de terre et les guerres. D'accord. Et comme je parle arabe, on m'envoie toujours dans des pays où je n'irai pas passer mes vacances, au Yémen, en Syrie, au Liban.
Ouais, où c'est un peu compliqué.
Les pays vraiment dangereux. Et alors j'ai gueulé, j'ai dit envoyez-moi ailleurs. Alors ils m'ont envoyé au Groenland.
Alors ce matin, pareil. Il fait un peu plus froid. Donc médecin, les études normales de médecin.
Oui, j'ai fait des études à Alger.
Ouais.
Ce qui fait qu'il y avait, c'était moins théorique et puis c'était très pratique. C'est-à-dire que, par exemple, on faisait la cardio et en même temps, on était au service de cardio.
Ouais.
Donc, ce qu'on avait appris le matin, eh bien, l'après-midi, le professeur nous montrait les cas de cardio. Par contre, on est les chiffres, les trucs comme ça. La médecine actuelle, elle est très forte en France. Ça, c'est, pour moi, c'est des artistes, c'est des gens formidables. Hein.
Ouais.
Donc, c'est une médecine... Moi, c'est... Quand tout est catastrophique, comme maintenant avec le Covid, là, je sais faire.
D'accord. Voilà. Oui, alors, tu disais que ton père t'avait dit que tu n'étais pas assez intelligent pour être médecin.
Alors, j'ai fait sciences éco.
Oui. Non, mais juste pour revenir, parce que mon père m'avait toujours dit, moi, il avait été élu à Claude Fauriel, à Saint-Étienne, et il me disait, nous, tous les cancres de la classe, ils ont fait médecin. Oui, parce qu'à l'époque, oui, mais ce n'était pas les mêmes règles que maintenant. À l'époque, le gars, il pouvait faire un an, deux ans, trois ans. Première année, il continuait. Donc, si les parents avaient un peu d'argent et s'ils avaient le temps, oui. Eh ben, ils finissaient médecin. Voilà, c'est ça. Et ce matin, ils ont mis des barrières.
Mais c'est un métier fantastique parce que quand on sauve la vie de quelqu'un, j'ai sauvé la vie à Madagascar d'un jeune qui vomissait du sang. Enfin, vraiment, j'ai sauvé la vie. Et trois jours après, il m'avait fait une sculpture dans le bois. Il n'avait jamais été à l'école, il ne connaissait rien.
Ouais.
Et si des gens ont la possibilité de venir à Saint-Pal voir cette sculpture, elle est unique au monde. C'est Marie qui apprend à marcher au petit Jésus. Ouais, c'est unique. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça, chacun... et puis, chaque jour, on a une vocation différente.
Ouais.
La vie ne se passe jamais comme prévu.
Ah ben non, ça c'est...
Pour personne.
Pour personne.
Voilà. Et donc, il faut s'adapter en fonction de ce qui se passe. Et,
ouais.
Et là, j'arrive du Pérou, là. J'étais au Pérou, en Amazonie.
D'accord.
Donc, c'était autre chose. Enfin, ma spécialité, c'est quand c'est catastrophique, là, je suis très bon.
D'accord. Oui, alors juste... Bon, on va pas... C'est vrai qu'on peut penser ce qu'on veut, là. Mais toi, tu as été en Algérie, donc tu parles arabe, tu sais ce que c'est l'islam. Bon, on voit ce qui se passe actuellement avec des fous. On peut dire que c'est des fous ou des fanatiques. On ne sait pas trop, hein, parce que c'est compliqué. C'est difficile à vivre quand même, parce que moi, surtout, ce qui me fait un peu peur, c'est l'amalgame. Parce qu'on va dire, il y a un fou, c'est arrivé. Hein, y a des Français qui ont tué leur famille.
Oui.
Mais ce n'est pas pour ça que tous les Français vont tuer leur famille.
Exactement.
Alors, je pense que tous les gens d'Afrique du Nord, les Maghrébins, bon ben, ils sont plus gênés par ce qui arrive peut-être encore que nous.
Moi, je connais bien l'islam parce que j'ai failli me faire musulman. J'ai commencé à apprendre le Coran par cœur, etc. J'allais à prière musulmane, Bismillah, Rahman, Rahim, Adulillah, Rabbil, Amin, Rahman, Rahim. J'arrive peut-être pas souvent en radio crapone qu'on dit ça. Et j'ai une grande estime pour l'islam. Le problème, il n'est pas religieux, il est politique. Et le problème, c'est qu'on se pose jamais cette question, qui paye ? Qui a payé Daesh ? J'ai failli me faire enlever par Daesh en Libye. Donc j'ai eu très, très peur ce jour-là. Je pourrais le raconter. Et donc, qui paye ? Et on sait très bien qui paye. C'est les riches familles d'Arabie Saoudite et du Qatar. Et donc, ces familles-là payent. Mais comme on leur achète du pétrole, on ne dira rien. Et alors, après, les jeunes, n'importe lequel, il ne connaît rien à l'islam. L'autre jour, j'ai demandé à un jeune qui s'est converti, un Normand, c'était en Libye, pourquoi tu t'es fait musulman ? Il m'a dit, parce que je déteste Jésus. Ah ben, je dis, t'as jamais lu le Coran ? On parle plus de Jésus dans le Coran que... On parle plus de Jésus que de... Oui, on parle plus de Jésus dans le Coran que de... Que de Mohamed. Donc, en fait, il connaît rien du tout. Et la seule femme dont on parle dans le Coran, c'est Marie. Hein, et ils aiment beaucoup Marie. Donc, en fait, beaucoup de ces islamistes ne connaissent rien du tout à l'islam. Par contre, vous avez dans le Sahara ou ailleurs des gens très spirituels et qui sont très, très proches de nous. D'ailleurs, pendant 400 ans entre le prophète Mohammed et les croisades en l'an 1000, et on s'entendait bien, puisqu'ils avaient Marie alors que les Ariens n'avaient pas Marie, refusaient ça. Donc c'est un problème politique, et c'est jamais bon quand les curés ou les imams font de la politique. On a vu ça avec Richelieu, donc faut jamais, c'est pas notre spécialité. Et là, actuellement, le problème, il est qui finance le terrorisme. On le sait très bien, et ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain, et si il y avait une révolution en Arabie Saoudite et que la famille royale disparaissait, parce qu'ils sont détestés même en Arabie Saoudite.
D'accord.
Voilà. Donc en fait, le vrai problème, il est là, et c'est ils sont payés. C'est souvent d'ailleurs, la plupart, c'est des anciens délinquants. C'est des types qui ont, c'est des types qui ont été en prison, et ils espèrent aller au paradis en tuant une douzaine de personnes, ce qui me paraît vraiment. Moi, j'ai du mal à croire en un Dieu qui voudrait qu'on tue les gens qui ne pensent pas comme nous.
Ouais.
Hein. D'ailleurs, si Dieu voulait le faire, il se débrouillerait, il n'aurait pas besoin de nous pour faire ça. Donc, c'est complètement absurde. Et mais qui dit à ces jeunes qui sont tentés par l'islamisme, qui leur raconte la réalité de
la vraie histoire?
Mon chauffeur dans le Sahara disait « Celui qui tue au nom de Dieu est contre Dieu. » Voilà, Et parce que si Dieu voulait que ça existe, il se débrouillerait. Donc, on est en une période où il y a beaucoup. Moi, je vois ça comme médecin humanitaire, en allant dans tous les pays où ça va mal. On est vraiment très fort pour mentir. On raconte n'importe quoi et les gens gobent. On voit ça aussi pour le Covid, oui. On voit ça pour autre chose. On a une époque pire que le Moyen-Âge où des gens sont prêts à croire n'importe quoi. Hein, les Américains ne sont pas allés sur la Lune. Le 11 septembre a été fait par George Bush. Enfin, les gens croient absolument n'importe quoi. Donc, il faut un petit peu se renseigner, et puis il faut retrouver la force de la science, quoi. C'est ça, les faits, la matérialité des faits.
Alors toi, t'as lu le Coran. Moi, j'ai pas lu le Coran ni la Bible, d'ailleurs. Hein, j'avoue. Et est-ce qu'il y a un grand écart entre le Coran et la Bible?
C'est des sources très communes, hein, la Bible.
Mais parce qu'en fait, on adore tous le même Dieu.
Oui, c'est ça. Enfin, ils croient en un Dieu absolument unique, qui a fait le bien et le mal. C'est la seule différence entre l'islam et le christianisme, c'est que les musulmans croient que Dieu a fait le bien et le mal. Donc, si je tombe dans l'escalier tout à l'heure, c'est de la faute de Dieu, c'est lui qui a fait le bien et le mal. Les chrétiens croient en un Dieu qui souffre et qui pleure. Et nous, il est sur la croix. Donc il y a le mal qui existe, et c'est un grand mystère, et ça, alors, je sais pas si Dieu, je crois quand même en Dieu, l'existence du mal, c'est mon métier, ça j'y crois profondément, une puissance intelligente du mal, il y a le mal qui existe, apparemment même c'est lui qui gagne puisqu'il y a la mort, mais en fait ce que croient les chrétiens, c'est que le bien finira par gagner, quoi. Et d'ailleurs on voit bien ça, parce que regarde maintenant, on s'est fait la guerre de 70, de 14 et de 40 à cause de Bismarck, qui a fait une faute d'orthographe dans une dépêche. Non, et il y a eu des millions et des millions de morts. Et maintenant, on est les meilleurs copains du monde, les ouais. Allemands et les Français. Donc, moi, j'aime pas la guerre. Hein, j'en ai vu trop. C'est atroce. Et souvent, maintenant, c'est les femmes et les enfants qui prennent. C'est pas les militaires qui se tuent.
Ouais.
C'est vraiment. Donc, c'est pour dire que l'islamisme et tout ça, faut se renseigner. L'islam est une très belle religion. Je ne suis pas musulman, mais. Il y a beaucoup de belles choses dans l'islam. Et on leur doit beaucoup. Et je pense qu'il y aurait un dialogue, ça serait intéressant. Parce que quand j'étais en Mauritanie, il y avait un dialogue. Il n'y avait pas d'abbaye. Moi, je passe un mois de retraite chaque année. Alors, comme il n'y avait pas d'abbaye en Mauritanie, j'allais dans une mahadra musulmane et puis j'allais prier là-bas. Alors, au bout de 5 minutes, on oubliait qu'il y avait des chrétiens et des musulmans. Mais on avait des grandes discussions. Par exemple, il me disait « Comment s'appelle ton père ?» Eh bien, mon père, il s'appelle Jean. Et alors, pourquoi tu dis Dieu notre Père? Alors, je dis, t'as raison. En fait, Dieu, c'est pas mon Père, mais c'est le moins mauvais nom qu'on ait trouvé pour définir Dieu. Voilà. Et donc, c'est le plus proche comme ça. Et moi, je disais, et Jésus, il est né comment? Il croit à la virginité de Marie, les musulmans. Alors, il disait, c'est Roh Allah, le souffle de Dieu. Alors, les chrétiens, nous, on croit que c'est Roh Allah, c'est l'esprit de Dieu. Alors, la différence entre un musulman et un chrétien, c'est la différence entre Roh et Roh. Alors, c'est pas très loin.
D'accord.
Et donc, peut-être qu'il ne faut pas chercher trop à définir, mais ce qui est important, c'est que Dieu a agi, continue à agir pour qu'on soit heureux, nous donne la recette pour être heureux. Ouais. Parce que tout se résume en une chose. Dieu s'ennuyait, il a envie d'être heureux, il a créé l'humanité pour nous rendre heureux. Parce que le seul moyen d'être heureux, c'est de rendre les gens heureux. C'est ça.
Oui, mais bien sûr, hein. Surtout dans ces périodes difficiles. Voilà. Alors toi qui as beaucoup... voyager, je dirais, tu as fait beaucoup de pays, donc c'est sûr.
127.
Et dans ces pays, il y a eu beaucoup de pays islamistes, hein, je présume, parce qu'ils sont quand même nombreux.
Comme je parle arabe, dès qu'il y a besoin d'un médecin qui parle arabe, on m'envoie là-bas, ouais. Ça c'est automatique. Ils sont touchés par la politique. Comme me disait un Algérien l'autre jour, nous n'avons pas la chance d'être pauvres.
Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire que c'est la catastrophe de l'Algérie, c'est d'avoir du pétrole, alors que la Tunisie et le Maroc n'en ont pas, et du coup, ils se développent mieux.
Ouais.
Et donc, ce pétrole et cet argent a vraiment détruit tout. Et ça, je crois que c'est vraiment... il faudrait qu'ils se posent la question. Il n'y a pas que le fric. Quoi.
Oui, alors ça, ça serait... Ça, on part dans la philosophie, là. Hein, parce
oui,
que...
mais c'est très concret, la philosophie.
Non, mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'on sait bien, on le voit bien partout, hein, on va dire le fric, le pognon, l'argent, on l'appelle comme on veut, mais on voit bien que dans les familles, ça met souvent tout en l'air quand il y en a un peu trop.
Voilà, les héritages.
C'est tout. Donc finalement, imaginez un monde sans argent aussi, c'est compliqué quand même.
Ben, c'est-à-dire que l'argent est un outil. Un marteau, je peux planter un clou ou taper sur la tête de quelqu'un avec. Hein. Et ouais. Donc, l'argent est un outil, mais faut pas en faire un dieu. Quoi.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on a eu un peu tendance peut-être à faire.
Certaines personnes, il y a des gens... moi, je connaissais la femme la plus riche de France, j'étais très copain avec elle, et elle était d'une tristesse pas possible. Comment dire... Le seul moyen d'être heureux, c'est de rendre les autres heureux. Donc, et on voit ça tout à fait dans les familles, dans autre chose. Quoi. Nos grands-mères étaient pauvres, mais elles n'étaient pas malheureuses.
Non.
La misère rend malheureux. Quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui ne peut pas manger, il est malheureux.
Ouais.
Mais quelqu'un qui est pauvre, c'est-à-dire qu'ils avaient deux vaches et un cochon, ben, ils n'étaient pas malheureux. Et donc, je crois que c'est ça qui est important, c'est de trouver... Alors que celle dont je parlais, eh bien, elle se disputait avec sa fille... comme ça, pour des questions de fric, encore une fois. Donc, il en faut pour vivre, mais il n'en faut pas trop.
Ouais.
Si je m'achète une Ferrari à Craponne, je ne vois vraiment pas l'intérêt d'avoir une Ferrari. J'achète le regard de la personne jalouse qui me voit rentrer dedans, c'est tout. Donc, c'est stupide. Enfin, voilà. Donc, il faudrait que notre époque se réfléchisse un petit peu et au lieu de se laisser influencer par la pub, par... les télés, tout ce qu'on nous montre.
On le voit en ce moment.
Oui,
hein,
oui,
ils font beaucoup de mal, hein, parce que moi, j'ai une opinion peut-être qui ne plaît pas à tout le monde, mais moi je dis que le Covid-19 tuera moins de monde que les gens qui vont être dépressifs, qui vont être stressés, qui vont perdre leur boulot.
Oui, oui.
C'est compliqué.
C'est une belle saleté, ce Covid, parce qu'en fait, on ne sait pas. Et tout le monde parle, et tous les professeurs de médecine parlent à la télé, il ferait bien de se mettre d'accord entre eux d'abord. Et tout le monde en parle, et non, ça va faire des dégâts, parce que, mais c'est dans 2-3 ans, il y a des gens qui l'ont eu, des jeunes en particulier, qui n'y sait rien du tout, et je suis sûr qu'ils auront des problèmes rénaux, cardiaques ou autre chose dans 2-3 ans. Non, c'est une sale maladie, et on ne le dit pas trop, mais il vaut mieux pas l'attraper.
Ouais.
Et on sait comment pas l'attraper, ça s'attrape surtout par les mains.
D'accord.
Donc au moins, dès qu'on voit un truc, un gel hydroalcoolique, eh bien on se lave, ça coûte pas cher. Et c'est,
d'accord.
Et puis, bon, et puis mettre le masque, ça en diminue. Quoi.
Ouais.
Mais les vieux, ils meurent, ils sont faits pour ça. Moi, j'ai 75 ans. Mais ce que je pense, c'est que les jeunes, il faudrait qu'ils fassent gaffe parce que c'est une belle saleté quand même.
D'accord.
Oui. Moi, je lis tous les textes sur le Covid actuellement. Et d'ailleurs, je me suis fait vacciner. Mais je ne sais pas, parce que la moitié, on a donné le vaccin, l'autre moitié, on a donné des placebos. Okay. Donc, je ne sais pas si je suis vacciné ou pas, mais non, ça va. Et puis, le risque, c'est qu'il y en ait d'autres. Ouais. Parce que le réchauffement climatique risque de sortir du permafrost sibérien, des virus qui datent des dinosaures. Quoi.
D'accord.
Non, vaut mieux écouter les gens et essayer de ne pas l'attraper. On a perdu 7 prêtres quand même récemment là, du Covid.
Oui.
Donc je veux dire, c'est quand même... Bon, ils avaient peut-être l'âge, mais il y en a un qui était plus jeune que moi. Et non, faut... Enfin, d'ailleurs, si tous les pays confinent, c'est pas par hasard. C'est que ils savent que c'est quand même dangereux. Et puis le confinement, c'est peut-être le moment de relire des livres qu'on aimait bien, ou de téléphoner. C'est quand même pas mal, téléphone portable. Téléphone portable donne peut-être des maladies aussi, on n'en sait rien. Mais
c'est... un peu ce qu'on peut reprocher, c'est la liberté, quoi. Je veux dire, on est un peu... On est confiné, on est chez nous. C'est pour certains, c'est un peu compliqué.
Moi, je serais pour
plus voir ses petits enfants, plus voir ses parents.
Si j'étais président, mais heureusement que je suis pas président pour la France. Mais si j'étais président, ce que je ferais, j'ouvrirais tout. Mais ceux qui respectent pas les gestes barrières, qu'il y ait plus de 2 ou 3 personnes dans les magasins. Alors là, on ferme le magasin à fond.
D'accord. Voilà. C'est un peu la même idée.
Ouais. Voilà. Mais tandis que, franchement, un marchand de chaussures, on est là, il y a une personne dans le magasin, c'est pas ça qui va donner.
De toute façon, s'il met qu'il n'y en a aucune, l'autre attend.
Voilà. Mais alors, est-ce que c'est possible à réaliser ça? Est-ce que je ne sais pas. Mais il y a des trucs qui sont fermés. Par exemple, on n'a plus le droit de dire la messe le dimanche. Je ne crois pas qu'il y ait eu du Covid à la messe du dimanche. Il y en a eu dans une église évangélique, mais les évangélistes, ils aiment beaucoup se prendre dans les bras les uns des autres. Tandis que à l'église de Craponne, ça ne se fait pas beaucoup, ça. Alors, je n'ai pas peur à l'église, mais je ne suis pas président, donc j'obéis. Il faut savoir tantôt obéir aux autorités.
Alors donc, ces nombreux... Bon, tu as beaucoup voyagé, beaucoup de pays. Tu m'avais dit une fois, je crois que je me rappelle de ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit que tu avais été plus longtemps dans le désert que la Rochefoucauld.
Que ?
La Rochefoucauld.
Oui, c'est ça. Charles de Foucauld, tu veux dire.
Charles de Foucauld, pardon.
Oui, c'est ma vie, quoi. J'ai passé 12 ans en Mauritanie. Enfin, j'étais dans des... Et c'est... Je suis un homme du désert. Je suis plus à l'aise sur un chameau que sur une moto. Et c'est pas par hasard si je suis chrétien comme ça, parce que je veux dire, la présence de Dieu dans le désert est beaucoup plus facile. Mais on s'en rend compte quand on va ici dans les bois autour de Craponne. Tu vois, il y a une présence. J'aime pas le mot Dieu. Dieu, c'est Zeus. C'est le vieillard barbu méchant sur la montagne qui dit: t'as pas été à la messe, t'iras en enfer. Celui-là, il n'existe pas, je vous rassure. Tandis que la présence qui nous aime et qui a créé le monde et qui a fait qu'il y a des fleurs et des belles choses et des champignons, ça, celui-là, j'y crois, parce que c'est... Quand on est dans les bois, quand on est dans le désert, eh bien, on sent une présence qui est là. Et tout le monde le ressent. D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre les athées totaux, parce et j'ai du mal à croire que ça soit fait par hasard. Ça me paraît pas possible. Mais maintenant, qui sait? La question, c'est qui est Dieu? C'est ça la question.
Eh bien, on est avec François Lefort, donc, qui nous parle un peu de sa vie, et puis on va parler de ses voyages. On va faire une petite pause musicale, parce qu'il disait que le bon Dieu s'était énervé, et Hugo Frey, dans son dernier disque qui s'appelle Autoportrait, eh bien, il nous chante « Le bon Dieu s'énervait ». Eh bien, on va écouter.
Ça fait 3 ans que j'ai planté cet arbre, et j'ai beau l'arroser à longueur de journée, il pousse encore moins vite que ma barbe. Pour faire un arbre, Dieu que c'est long. Pour faire un arbre, Dieu que c'est long. Pour faire un arbre, Dieu que c'est long. Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est long. s'énervait dans son atelier sur ce maudit volet, disant j'ai travaillé, je n'arrive pas à le faire avancer, ni encore moins à le faire reculer. Pour faire un âne, dire que c'est long, pour faire un âne, dire que c'est long, pour faire un âne, dire que c'est long. Oui, pour qu'il marche sur ses deux pieds. Pour faire un homme, Dieu que c'est long. Pour faire un homme, Dieu que c'est long. Pour faire un homme, Dieu que c'est long. Pour faire un homme, mon Dieu que c'est long. Son atelier, en regardant le monde qu'il avait fabriqué, ces gens se battent comme des chiffonniers, et je ne peux plus dormir en paix. Pour faire un monde, Dieu que c'est long, pour faire un monde, oh Dieu que c'est long, pour faire un monde, ah Dieu que c'est long, pour faire un monde, mon Dieu que c'est long. Pour faire un monde, Dieu que c'est long, pour faire un monde, Dieu que c'est long pour faire un monde. Hey, Dieu que c'est long pour faire un monde. Mon Dieu que c'est long. Hey, pour faire un monde. Dieu que c'est long pour faire un monde. Dieu que c'est long pour faire un monde. Dieu que c'est long pour faire un monde. Mon Dieu que c'est
Voilà, Hugo Frey, le bon Dieu s'énervait. Bon, on va essayer qu'il s'énerve un peu moins. Donc voilà, on est avec François Lefort, notre invité du jeudi. Alors François, toi, tu as vu pas mal de pays. Donc certains disent que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Quand on part comme ça dans un pays, qu'on revient, comment on trouve la France?
Alors moi, j'ai aucun doute, hein. Je suis allé dans 127 pays et les pays où je ne suis pas allé, ce n'est pas les plus beaux. Le plus beau, c'est la France. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, je peux le dire avec certitude. Mais les Français se croient en enfer. Et c'est des râleurs. Ils sont toujours en train de râler. Scandale, il n'y a pas ça. Aux États-Unis, si vous avez le Covid, ça vous coûte à peu près 10 000 dollars. Enfin, je veux dire, c'est très, très cher. La mortalité infantile est plus faible à Cuba qu'aux États-Unis. Donc en fait, la médecine est payante presque partout. Quand vous êtes aux Philippines et que vous devez aller à l'hôpital, on vous demande votre carte, on vous demande pas votre carte vitale, on vous demande votre carte bleue, hein, tout de suite. Et c'est cher. Donc au niveau soins, on se rend pas compte la chance qu'on a. On est toujours en train de râler et l'école est quand même à peu près correcte. Je veux dire, la plupart, il y a encore beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école dans le monde. 800 millions de personnes ont faim. C'est scandaleux. Alors que les Américains sont trop gros. Donc je veux dire, on se rend pas compte la chance qu'on a d'être en France. Et moi, ce que j'aimerais, il faut critiquer, oui, pour que les choses aillent de mieux en mieux toujours. Mais tout de suite en critique. C'est marrant quand un politique prend la parole, vous êtes certain que celui qui est pas du même parti va tout de suite le démolir. Et moi, je me souviendrai toujours, quand je faisais de la politique, il y avait un débat entre Jeannet et Mendès France. Et eux, c'était des types honnêtes. Et je me souviens, Mendès France dira à Jeannet, d'habitude, vous sortez cet argument, et je vous avouerai que je ne sais pas comment répondre. Alors ça m'a plu. C'est-à-dire, pourquoi de temps en temps, les hommes politiques ne diraient pas, ah ben là, ben, chapeau, là, vraiment, vous avez été bon. J'aurais peut-être pas fait ça pour cette telle chose, mais j'aurais fait ça pour... Non, c'est automatiquement mauvais. Hein ? Automatiquement, dès qu'un président de la République, quel qu'il soit, Sarkozy, Hollande ou Macron, prend la parole, vous avez tout de suite les autres qui flinguent. Je veux dire, enfin, c'est ridicule. Il y a quand même des choses qui ont été faites par les uns et les autres qui ne sont pas mauvaises. Et en fait, maintenant, quand je vote, je ne vote plus jamais pour les partis, je vote pour les gens. C'est-à-dire qu'il y a des types que j'estime et que je connais, et je me dis, celui-là, il est honnête, donc il fera le maximum. Et je crois vraiment qu'il faut qu'on arrête de râler. Donc c'est français, et c'est peut-être pour ça que la France marche bien, c'est peut-être parce que ça fait 300 ans qu'on râle, mais en même temps, on râle quelquefois pour n'importe quoi. Par exemple, on demande le référendum d'initiative populaire. Mais si on mettait la peine de mort, les gens voteraient pour. Et quelquefois, se réfléchir. Si on voterait... Par exemple, il y a eu un sondage pour savoir si le professeur Raoult avait raison ou avait tort. Mais qu'est-ce qu'ils en savent, les gens qui ont répondu au sondage? Moi, j'en sais rien. Je veux dire, je sais que la chloroquine ne marche plus maintenant. Mais par contre, pourquoi tout de suite, on est pour ou contre?
Ouais.
Non, quelquefois on ne sait pas. On ne va pas faire un référendum pour les questions économiques. Moi, ça me dépasse complètement. Et donc, je trouve qu'il faudrait que les Français, de temps en temps, se disent quelle chance on a d'être Français. Hein. Quelle chance on a de vivre dans un pays où il pleut. Là où j'habitais en Mauritanie, le désert avance de 40 km par an, 400 km en 10 ans. Donc, les gens, ils ne peuvent plus planter leurs patates douces. Donc, où est-ce qu'ils vont? Où ils vont à Dakar dans les bidonvilles? Où ils vont en Europe?
Ouais.
Si on veut qu'il n'y ait plus d'immigration, mais dans ce cas-là, il faut qu'on aide les gens sur place. Tout le monde le dit, personne ne le fait.
Ouais.
On aura ce qu'on mérite, parce que les gens, ils passeront. Il y en a beaucoup qui mourront, mais l'immigration, on en est au début de l'immigration, on n'en est pas à la fin. Le seul moyen d'arrêter, on ne peut pas, comme me disait Abdou Diouf, le président du Sénégal, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Hein? Alors comment ça peut avancer? Si on veut empêcher la migration, il faut développer les pays du tiers-monde. Tout de suite, les gens disent ils vont voler, c'est pas vrai. Les voleurs, ils sont ici, hein, parce que c'est de l'argent pour la politique française qui revenait. Si vraiment on cherchait à développer les pays du tiers-monde, ils préfèrent rester chez eux, bien sûr. Et puis cette histoire de réchauffement climatique aussi, le désert avance de façon colossale. Donc ils viendront. Et puis, on peut être pour, on peut être contre, mais c'est comme ça.
Oui, on voit bien que pour la migration, c'est vrai que pour faire les parcours qu'ils font, hein, ce qu'on voit, hein, je veux dire, il faut vraiment être désespéré, hein, parce que le gars, il sait que d'abord, il s'est fait voler parce qu'on lui a piqué tout son fric. Mm-hmm. Deuxièmement, il n'est pas sûr d'arriver de l'autre côté.
Jamais.
Je peux dire qu'il faut être vraiment désespéré. Alors, le gars qui tente le coup, qu'est-ce qu'on ne peut pas lui reprocher.
Il y a beaucoup de morts, mais il y en a beaucoup qui arrivent quand même à passer. C'est vrai qu'il y a de la délinquance, et ça, il faut être très strict avec les gens qui sont de délinquance. On peut peut-être les expulser comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là encore, ce n'est pas le discours qui changera les choses. Et même si l'extrême droite prend le pouvoir en France, les gens continueront à venir. C'est une question de survie pour eux.
Voilà, c'est ça. Oui.
Et on ne pourra pas les empêcher de passer. Le jeune qui a fait l'attentat de Nice, qui a tué 3 personnes dans une église, il n'y a même pas un mois et demi, il était encore en Tunisie.
Ouais.
Et pourtant, on dit c'est barré, c'est fini, c'est tout ça. Mais il s'infiltre à droite ou à gauche. Et donc, la solution, c'est de leur donner envie de rester chez eux.
Qu'ils crèvent pas de faim, déjà, voilà. première chose.
Exactement. Donc, je crois que là aussi, le problème, il faut essayer d'examiner les faits et non pas les discours. Il y en a marre des discours où on dit n'importe quoi. Je parle pour le Covid, je parle pour l'immigration, je parle pour la malhonnêteté des hommes politiques qui ne sont pas plus malhonnêtes que les charcutiers. Alors, c'est pas vrai. Il y en a des malhonnêtes, hein, mais il y en a des honnêtes. Moi, j'en connais. Dans presque tous les partis politiques.
Alors, justement, toi qui navigues beaucoup, je dirais, enfin, qui va de pays en pays, quand tu es dans des pays comme ça, difficiles, où les gens ont du mal à vivre, enfin, ont du mal à manger, déjà, hein, le reste, le matériel, c'est peut-être moins important. Tu leur en parles, tu leur dis, mais qu'est-ce qui vous pousse à venir, qu'est-ce qu'ils expliquent, comment ils sont prêts à risquer leur vie, quoi.
D'abord, c'est des gens formidables qui s'entraident beaucoup entre eux, ce qu'on ne fait pas beaucoup ici. Il y a des gens qu'on trouve et qui sont morts dans leur appartement depuis plusieurs mois et personne ne s'en est rendu compte. Ça, ça n'existe pas en Afrique. Ensuite, en Afrique, il n'y a pas de maison de retraite parce qu'on garde le vieux chez soi jusqu'au bout. Hein, ça, c'est comme ça. Et ensuite, par exemple, j'ai raconté une fois à un enfant de la rue de Mauritanie, j'ai dit, tu sais, en France, on n'a pas le droit de travailler avant l'âge de 16 ans. Alors, il m'a dit, pourquoi tu mens ? Je lui ai dit, je t'assure, on n'a pas le droit de travailler avant l'âge de 16 ans. Alors il m'a dit, oh les pauvres. Parce que pour eux, travailler, c'est vivre. Enfin, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a moi, ce que je trouve formidable, une fois, il y avait un enfant qui avait du mal à manger. Je lui ai donné une baguette. Je l'ai vu sortir de chez moi. C'était encore à Nouakchott, en Mauritanie. Et il a vu une mendiante dehors. Il a partagé le pain. Il lui a donné. C'est fantastique. Ouais. Et là, donc il y a la possibilité de partager. Mais les beaux gestes, on n'en parle pas. Et si un de ceux-là commettait un crime abominable comme celui qui a tué des gens dans une église, enfin, eh bien, alors on s'appuie là-dessus et pas sur les beaux gestes. Il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un dans une église, mais je me souviendrai toujours aussi cet Africain clandestin qui a escaladé jusqu'au 7e étage pour sauver un enfant qui s'était jeté par la fenêtre. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire-là, enfin, et qui a eu le courage d'escalader l'immeuble jusqu'en haut. Donc, si on nous disait les belles choses, ça va. Les médias sont faits pour nous parler que ce qui ne va pas. Hein. Alors on nous montre, c'est vrai que les trains qui arrivent à l'heure, c'est pas intéressant. Mais en même temps, il y a quand même des belles choses. Et de temps en temps, il faudrait qu'on insiste sur ces belles choses qui peuvent exister.
Oui, il ne faut pas tout noircir.
Voilà. Et donc moi, je vois des belles choses aussi, mais je vois des tortionnaires, des gens comme ça qui sont payés, abominables. Enfin, et puis les guerres, quoi. C'est absolument insupportable et ça ruine. Enfin, il faudrait pas grand chose pour que le monde entier soit un paradis. Hein ? Il faudrait pas grand chose.
C'est pas utopique un peu ?
Non, il faudrait pas grand chose. Mais il y a toujours des gens qui cassent. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de casser. Ouais. Une bombe qui explose, ça fait plus de bruit qu'une fleur qui pousse. C'est facile de se détruire un pont. Ouais. Mais combien de temps il faut pour le reconstruire après ? Et donc actuellement, on voit beaucoup plus de gens qui sont contre que des gens qui sont pour. Mmh. Des gens qui détruisent plutôt que des gens qui construisent. Alors il y a de temps en temps des chefs d'État extraordinaires, comme Amadou Toumani Tirouet au Mali il y a une vingtaine d'années. Je l'avais invité, je suis allé le chercher à l'aéroport à Dakar et je ne le trouve pas parce qu'il avait pris les secondes en disant mais du moment que c'est pour les enfants des rues, moi je suis beau être chef d'État, je ne vais pas prendre la première classe. Il y a des gens comme ça, ça ne fait pas de bruit, mais c'est magnifique, hein, qu'il y a des gens qui font du bon boulot et c'est ça que je regarde moi. Et je méprise ceux qui tuent et ceux qui cassent. Voilà. C'est comme à chaque fois qu'il y a une manifestation, pourquoi brûler les...
Ouais,
les
ça, c'est
à quoi ça sert de brûler
rien,
les poubelles?
C'est nos impôts. Enfin, dire,
ça, c'est très énervant. Donc, vaut mieux construire que détruire, c'est complètement certain. Et ça, je trouve que c'est chrétien, ça tombe bien.
Voilà. Allez, on fait une autre pause. On est avec François, donc toujours, bien sûr. On fait une autre pause musicale. Alors, vous me direz que c'était facile à trouver, ça, hein, puisqu'on parle beaucoup de ces voyages. Donc, on va écouter Voyage avec Désirless. Hein. Enfin, il y en a beaucoup qui ont chanté Voyage. Hein. Allez, on va.
Oui, j'ai parlé du positif.
Oui, voilà.
Dude. je voyage.
Voilà, aujourd'hui, notre invité du jeudi est François Lefort, bien sûr, qui a beaucoup voyagé. Hein. Vous en êtes rendu compte depuis le début de cette émission. Alors, François, c'est vrai qu'on pourrait faire des kilomètres d'émissions avec toi. Mais, donc, beaucoup de voyages, on a compris. Hein, on a parlé un petit peu de tout, hein, de l'islam, du bon Dieu, on ne comprend pas. Toi, c'est vrai, quand je vais à un enterrement, que tu expliques... que bon, on est croyant, on n'est pas croyant, mais ça n'a rien à voir. Hein. C'est donc
devant la mort, on est égaux.
Hein, oui, tout le monde est égal. C'est peut-être la seule chose où tout le monde est égal. Hein, oui, parce que là, il n'y a pas histoire de richesse, pas de richesse. Hein. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard.
Non.
Donc... oui, alors donc, dans ces voyages, qu'est-ce que ça t'a apporté peut-être de plus, plutôt que de rester confiné? On ne parle pas du confinement maintenant, mais
vois,
confiné dans un pays.
On parlait de la mort tout à l'heure. Il y a quelque chose qui me frappe, c'est que partout, eh bien, les gens croient qu'après la mort, il y a une présence des morts qui est là. On ne met jamais un mort à la poubelle. On fait une cérémonie même et on lui parle. Donc ça, c'est quelque chose que ça existe en Chine, à Madagascar, à Ushuaïa, ou partout. Eh bien, cette présence des morts, on y croit. Le domaine des religieux, c'est le domaine des choses qu'on sait sans pouvoir le prouver. Il y a beaucoup de choses qu'on sait sans pouvoir le prouver quand deux personnes s'aiment. Il n'y a pas une application téléphonique qui dit « vous aimez à 90 ou 99% ». Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Eh bien, c'est pareil, cette présence des morts, et c'est pour ça que je dis aux gens « continuez à leur parler ». Et on est étonné parce que quelquefois, on a l'impression qu'ils nous entendent et même qu'ils nous répondent. Et donc, c'est peut-être une impression, je suis peut-être fou, ça je veux bien le croire. Mais c'est une impression qui existe, qui est dans le corps humain, partout dans le monde. Il n'y a pas une seule endroit dans le monde où on jette les morts à la fin en disant ça ne vaut plus rien, parce qu'un corps, c'est rien du tout, ça ne vaut rien. Ouais. Tandis que cette présence, elle existe. Donc ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, justement, qui est positive. C'est ce rapport avec la mort qui existe très différemment. Il y a des gens qui croient qu'il y a une deuxième vie après, ou une survie, ou je ne sais pas quoi. D'autres qui croient à autre chose. Mais ce n'est pas fini après la mort dans toutes les sociétés. Il n'y en a pas une seule qui dise le contraire. Donc je crois que ce qu'il faut, c'est essayer d'être positif. L'autre jour, j'étais à Madagascar et maintenant, avant, quand je partais, je faisais le boulot. J'arrivais, je partais, je travaillais. Bon. Maintenant, je me donne toujours une semaine de vacances. Quand je suis allé en mission au Groenland, en rentrant, j'ai passé une semaine en Islande. Eh bien, là, j'étais à Madagascar et j'ai beaucoup travaillé. Et après, je me suis donné une semaine dans une île de l'océan Indien. qui est interdite aux chiens. Bon, pourquoi. Et donc j'étais là et j'avais amené mes deux bouteilles d'oxygène et puis j'ai plongé au milieu des tortues, des coraux, des trucs magnifiques. Et je ressors et je me mets sur la plage, il y avait un coucher de soleil, j'avais mes bouteilles à côté de moi et je me dis, mais, pas de vin, d'oxygène. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir autant de chance? Parce que les gens disent toujours, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir des ennuis? Mais Dieu ne donne pas d'ennuis. Par contre, Dieu, de temps en temps, il permet qu'on aille plonger avec des bouteilles au milieu des coraux et des tortues. Donc ça, je crois que de temps en temps, il faut, quand on a de la chance, quand ça va bien, il faut se dire ça va bien. Hein, et il y a des gens, ils sont toujours, toujours en train de râler, de voir ce qui ne va pas. Ils sont tristes, ça se voit sur leur visage. Bien sûr. Et les enfants de la rue dont je m'occupais, ils étaient toujours en train de rigoler, de faire des farces. Donc je crois que c'est une question d'attitude. Les visages des enfants riches du 16e arrondissement de Paris sont beaucoup plus tristes que les enfants de Rio de Janeiro qui sont toujours en train de sourire. Donc il faut positiver et il faut reconnaître quand il y a des bonnes choses. Par exemple, là, il y a le coucher de soleil sur Craponne, ben, c'est quand même pas mal. Voilà. Eh bien, c'est important de positiver un peu et de dire ce qui va bien.
Qu'est-ce qui t'a amené au Groenland? Parce que toi, tu es plutôt sur l'Afrique.
Là, c'est les Cubains.
Ah, d'accord.
Parce que Cuba est la meilleure médecine du monde. Et eux, ce qu'ils font, ils soignent les maladies et non pas les personnes. C'est-à-dire que s'il y a le choléra à Cuba, on arrête tout, on arrête le choléra, il n'y a plus ça. Ce qui fait que la mortalité infantile à Cuba est plus faible qu'aux États-Unis. Donc, c'est la meilleure médecine du monde et ils prennent les gens en charge. Et ensuite, souvent, ils soignent là où il n'y a pas de médecin. C'est pour ça que souvent, les églises, par exemple dans l'Amérique centrale, Guatemala, Costa Rica, Panama, tous ces pays-là, le Salvador, eh bien, ce sont souvent les églises qui soignent. Et les gens se prennent en charge, au moins, pour soigner les maladies les plus courantes. Eh bien, et ils se demandaient, les Cubains, comment est-ce qu'ils faisaient au Groenland, puisque là-bas, il y a 300 000 habitants, il y a 30 000 à Nuuk, la capitale, et pour un territoire grand comme la moitié de l'Afrique. Alors, ils se demandaient comment les gens soignaient, puisqu'il n'y a pas de médecin. Et en fait, ma découverte, c'est qu'ils ne sont pas malades. Avec le froid, les seules maladies qu'il y a au Groenland, c'est de l'alcool et le suicide.
D'accord.
Il y a beaucoup de suicides.
Ah oui.
Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont sur leur traîneau, mais ils pianotent sur leur téléphone portable, comme ici. Maintenant, c'est dans le monde entier.
Ouais, bah oui.
Tout le monde pianote sur les téléphones portables. Ça, c'est devenu mondial.
Ouais. Donc, il n'y a pas que chez nous.
Voilà. Mais c'est pas indépendant.
C'était une belle découverte, le Groenland.
Moi, j'aime les pays où ça grouille et où il y a beaucoup de monde.
Ah bah là,
et c'est pas tellement le cas. Donc, je suis plus à l'aise dans les pays surpeuplés, l'Indonésie, beaucoup l'Indonésie, des pays comme ça. Enfin, où j'aime les foules. Ça rigole, ça s'engueule, ça crie. Ça, au Pérou, dans les marchés, c'est extraordinaire. Enfin, c'est donc. J'aime les gens et les gens populaires. Moi, j'aime beaucoup le marché de Craponne ou le marché du Puy ou tout ça. Il y a une ambiance dans les marchés. Voilà, ça c'est chrétien.
D'accord. Hein,
de se retrouver les uns les autres. Et tandis que les gens tout seuls dans leur appartement du 16e arrondissement ou à New York ou à Melbourne, ils s'emmerdent. Pardon, ils s'ennuient.
Non, c'est pas grave. Oui, donc voilà. Oui, c'est vrai qu'en fait, on sait, hein, c'est le communiquer entre soi. Hein, quand on est ensemble, c'est toujours sympa. On est avec des copains, on est avec un groupe.
Et puis c'est drôle.
Puis, voilà.
Le charcutier, il va se moquer de la. Alors, ma petite dame, etc. Enfin, je veux dire, c'est marrant,
ouais.
Un marché.
Ouais.
Donc, j'aime mieux les pays comme ça où il y a des marchés. Et en général aussi, il y a des odeurs. Finalement, on peut voyager avec la télé, mais pas les odeurs.
Ah oui, ça c'est sûr.
Et il y a les odeurs, il y a les couleurs, il y a l'ambiance, et ça, il n'y a que le voyage qui permet de se rendre compte. Et un bon film à la télé sur tel et tel pays, il manque l'odeur. Il faudrait qu'on invente une télé qui donne les odeurs.
Ça viendra peut-être. Dans tous les pays que tu as fait, dans lequel tu as eu le plus peur, je dirais, vraiment là, tu t'es senti en danger?
La Libye, J'ai failli me faire enlever par Daesh. Là. C'était juste après l'attentat de Sousse. J'étais à Sousse au moment de l'attentat. Et il y a eu des Anglais qui ont été tués sur la plage.
Ouais.
Et puis quelqu'un m'a dit, je peux te conduire en Libye, alors que la frontière était fermée. Et il m'a conduit à Daesh. Et j'ai juste eu le temps de faire demi-tour. Et de... Donc là, j'ai eu la trouille. Une autre fois, c'était... je rigole parce que ça, c'est bien fini. À Saint-Domingue. J'allais à Haïti, sur le sud de l'île, et brusquement, c'est dans la montagne, donc il y a la montagne, et on voit la mer, enfin c'est la montagne tombe dans la mer, et une route comme ça, à flanc de coteau, à flanc de montagne, et je vois un arbre qui tombe, j'ai compris que c'était les coupeurs de route, et c'est réputé, là-bas on enlève pour l'argent, enfin, je fais demi-tour, et ils avaient coupé un arbre derrière. Alors, je vois arriver sept types avec des machettes qui étaient prêts. Et il donne ton fric, enfin. Alors, moi, j'ai un truc, je donne le truc à tout le monde. Il faut toujours avoir un peu d'argent dans la poche pour les voleurs. Il ne faut jamais se défendre. Et il faut dire, tu veux de l'argent? Bah tiens, voilà l'argent. Et je lui dis, voilà l'équivalent de 50 euros. Un billet, un seul billet. Et puis, c'est bête, mais d'habitude, je dis rien, puis il me laisse partir. Mais là, j'ai dit, mais comment je vais manger maintenant? Alors le type m'a regardé, alors qu'il m'aurait tué. Hein. Il m'a dit, descends. J'ai dit, ça y est, je suis enlevé. Bon, et ils m'ont emmené avec des mobilettes dans la forêt, là-bas. Et j'ai eu la trouille, parce que j'ai cru que j'étais enlevé. Et le gars est rentré dans une espèce de boutique. Et puis il ressort et me dit, 200 pour moi, 300 pour toi, est-ce que ça va? Il m'a rendu la monnaie. Alors qu'il m'aurait tué si je n'avais pas donné d'argent, ouais, il m'a rendu la monnaie.
Ouais, c'est vrai, parce que finalement, bon, il a dit c'est pas la peine, il a donné ce qu'il y avait.
C'est sympa, en fait, je veux dire, ça n'existe pas les salauds. Enfin, si, ça existe quand même, j'en ai vu en prison, oui.
Ouais.
Des types où vraiment, j'aimerais pas les gens, on peut dire le nom, mais Fourniret, par exemple, c'est quand même un type, excuse-moi, ouais. C'est. Il faudrait qu'ils s'en rendent compte quand même que c'est. Mais c'est rare. Hein. Il n'y a pas plus de salauds en prison que dehors. C'est la même proportion. En prison, c'est les perdants.
D'accord.
Et la prison est complètement stupide parce que c'est là qu'on apprend le métier. Si tu n'arrives pas à ouvrir ta porte, tu m'appelles, c'est faire maintenant. Hein, on apprend le métier et la seule chose que les voleurs n'aiment pas, c'est les caméras. Parce que même si on met une cagoule, le gendarme, il dit oh, bah, je le reconnais, c'est celui-là.
Ouais.
Non, oui, quelquefois j'ai peur. Eh bien alors non, là où j'ai très peur, c'est en voiture. Les types, ils conduisent au Liban. Je crois que c'est le pays où il y a le plus de morts en voiture. J'étais une fois dans un car dans les années 60. On a doublé deux autres cars à droite dans un virage, sans visibilité. Non, le Liban, ça fait peur. Oui.
Ouais.
Enfin, les voitures.
Oui.
D'ailleurs, nous, dans le médecin humanitaire, la plupart de ceux qui meurent, c'est d'accidents de voiture.
Hein. Ouais.
Et quelquefois d'avion.
Oui. Bon, ben oui, ça, il ne faut pas être dans une tombe.
Une fois, j'étais. Parce que je pilote. Enfin, je pilotais. J'ai plus assez d'argent pour le faire. Mais, et j'avais fait copilote pour aller. C'était les réfugiés rwandais à ce moment-là. Et c'était un DC-3, j'avais jamais piloté le DC-3 de ma vie, mais enfin, ça fait rien, je me suis. Et il y avait le pilote était un Sud-Africain complètement bourré. Hein. Je sais pas comment il a décollé droit, parce qu'il marchait pas droit quand il est arrivé. Et il m'a dit, si on tombe ici, on nous trouvera jamais. Ben, je dis, et là en bas, c'est quoi? Il y a des arbres, là. Oui, mais c'est pas des arbres, c'est des choux-fleurs. Et dit, si ça tombe, ça brûle pas. Et donc, je dis, mais il y a le moteur gauche qui pisse de l'huile. Il me dit, eh ben, ça prouve qu'il y en a encore.
Très britannique.
Oui, oui. Mais c'est. Non, quelquefois j'ai la trouille, mais je peux très bien glisser dans l'escalier. Un type comme Lionel Terray est mort dans une course extrêmement facile de débutant.
Ouais.
C'était un des plus grands alpinistes français.
Ouais.
Donc, Inch'Allah, comment dire en arabe.
Voilà, mais écoute, François, voilà, on arrive au terme de cette émission. C'est vrai qu'on pourrait rester des heures à t'écouter. Bon, bah, tu reviendras un jour.
Hein.
Et puis, juste pour terminer, puisque on a bientôt fini. Tu m'as toujours dit que toi, tu as dit que tu ne voulais plus partir de la région. Tu m'as dit que tu étais sûrement le prêtre qui était dans le plus beau presbytère de France.
Oui, et n'hésitez pas à venir me voir. Si ça me dérange, je le dis. Mais sinon, j'aime beaucoup le faire. Je veux pas être là, je suis un peu honte. Et je voudrais le faire visiter à tous ceux qui souhaitent la voir. C'est un lieu historique où les Chalencon sont devenus Polignac et le prince de Monaco est un Polignac. Donc ses ancêtres habitaient à Saint-Pal-de-Chalencon pendant 600 ans. C'est quand même pas mal. Donc je le fais visiter.
Toi, tu resteras pas 600 ans, si ?
Aussi, puisque je vais t'enterrer à Saint-Pal.
Ah oui. Allez, on va finir sur cette bonne note. Merci François d'avoir été avec nous.
Mírame.